Bonjour, bonjour, moi c'est Lilou, j'habite à Vendres et je suis élève en terminale à Paris. Et je prévois d'organiser une semaine au sujet du changement climatique pour des collégiens et des lycéens en avril 2022. Et je voulais savoir si vous pouviez m'aider. Donc si vous avez à votre disposition des ressources pédagogiques ou d'autres aides, elles sont les bienvenues. Évidemment, je vous remercie mille fois d'avoir proposé cette messagerie qui met à la lumière toutes les idées et les individus solidaires vis-à-vis de la crise écologique. Merci beaucoup et bonne continuation. Au revoir.
Philippe de Suresnes, je suis en train d'écouter les jeunes demoiselles qui sont en train de défiler à Bordeaux, etc. J'ai 57 ans et je suis à 300% avec elles, enfin avec tous les jeunes qui ont envie de se battre et pour lesquels il faut absolument bouger. Bravo, continuez et à la prochaine, j'y serai.
Elisa Bar-le-Duc, le nucléaire sauvera-t-il le climat? Dans le monde, le nucléaire représente 2% de l'énergie et 10% de l'électricité. Pour que le nucléaire ait une action planétaire sur le climat, il faut construire en moins de 5 ans 2000 EPR à 19 milliards chacun ou 4000 réacteurs à eau pressurisée. On a 10 ans de réserve d'uranium avec 4000 réacteurs. La construction de 2000 EPR nécessiterait 2,2 milliards de tonnes de béton et prendrait plus d'un siècle. Bonjour le réchauffement climatique. Ne vaut-il pas mieux concentrer les efforts de recherche sur les énergies renouvelables et le stockage pour relever le défi climatique à temps, sans les problèmes de sûreté et de déchets radioactifs? Merci.
Bonjour, ici c'est Laurence de Toulouse. Bon, je vous appelle parce que j'écoute régulièrement votre émission, mais je commence à la trouver un peu tristounette, parce qu'il existe quand même des choses très belles en France ou ailleurs. Et j'ai appris il y a quelques jours que la ville de Caen avait un élevage de coccinelles, le seul en France, pour pouvoir aller manger les pucerons chez les uns ou chez les autres. Et je trouve ça super, donc ce serait bien que de temps en temps il y ait des belles choses comme ça dans votre émission. Bonne journée.
Salut la Terre au Carré, moi j'ai bientôt 16 ans et je suis lycéenne à Strasbourg et je voulais vous dire que je perds pas espoir pour la planète, voilà, merci, salut.
Bonjour, Marc de Lyon, je me posais une petite question, je me disais qu'avant c'était la tête au carré, aujourd'hui la Terre au Carré et je voulais vous soumettre une proposition, je pensais à la sphère au carré, puisque la sphère pourra représenter et la tête et la Terre, et puis ça fera un petit clin d'œil géométrique. À bientôt.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Alors bienvenue dans la sphère au carré, mais ce sera uniquement pour aujourd'hui. La crise écologique que nous vivons pourrait avoir au moins une vertu majeure, celle de nous permettre de réfléchir et de repenser nos rapports avec les autres êtres qui nous entourent, les humains bien sûr, mais aussi les plantes, les animaux, voire même les objets et les esprits. En la matière, il y a de nombreux peuples qui entretiennent partout sur la planète des liens avec leur environnement qui pourraient largement nous inspirer. Et les anthropologues qui les étudient jouent un rôle important pour nous ouvrir les yeux sur les autres formes de relations entre humains et non-humains, afin donc de repenser l'écologie et nos liens au vivant. Bonjour Philippe Descola.
Bonjour Mathieu Bidard.
Merci d'être avec nous, on est très heureux de vous accueillir. Vous menez, on le sait, depuis plusieurs décennies maintenant, un travail sur les représentations et les autres manières d'être au monde et vous publiez aux éditions du Seuil Les Formes du Visible. C'est un livre important, une grande enquête autour des images dans différentes cultures. Ces images qui prennent la forme de masques, d'effigies, de gravures rupestres ou de peintures et qui font écho au mode d'identification justement que vous avez identifié et qui représente donc les différentes manières d'être au monde pour les sociétés humaines. Il y a ce film également d'Elisa Lévy qui s'appelle La Composition des Mondes qui sort et au cours duquel la réalisatrice vous a suivi en particulier à Notre-Dame-des-Landes et en Équateur. On va se retrouver donc dans un instant pour parler de nos liens avec les mondes qui nous entourent et vous répondrez aux messages et aux questions des auditeurs qui nous rejoignent donc sur franceinter.fr, les réseaux sociaux et l'application France Inter. Vous pouvez nous laisser vos notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passera au vert à 14h30.
Oui, avec les véhicules qui roulent au gaz naturel. Gaz naturel, ça fait bien comme ça, ça sonne
ça
pas
fait
mal.
Nature, oui.
Mais pas tant que ça, vous allez voir.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Charles de Silia, préparée par Anna Massardier avec Leonardo Kahn pour les réseaux sociaux et Michel Bézikian à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Voilà, la nature en trompe-l'œil.
c'est vu qu'il n'y a pas de nature, que la nature n'existe pas, qu'il y a des montagnes, des vallées, des plaines, qu'il y a des arbres, des fleurs, des herbes, qu'il y a des rivières et des pierres, mais qu'il n'y a pas un tout auquel tout cela appartient. Qu'un ensemble réel et véritable est une maladie de nos idées. Una doença das nossas ideas. C'est une très belle expression. La nature, c'est des parties sans un tout. Ceci est peut-être le mystère dont il parle.
Et c'est votre voix, Philippe Descola, extrait de ce film « Composer les mondes » d'Elisa Lévy, qui va sortir donc un peu partout. Et cette phrase du poème de Fernando Pessoa, qui d'emblée nous interpelle, puisqu'il nous dit, cette phrase, c'est vraiment l'ouverture du film, hein, « La nature n'existe pas ». Et c'est une phrase qui nous trouble.
Alors que j'ai mis des décennies et que je suis allé au bout du monde, chez les Atchouars, pour essayer de comprendre cela, un grand poète, il est vrai, l'a trouvé dans l'observation des paysages de son Portugal natal, et au fond de lui-même aussi. Et je ne pouvais pas faire mieux que de le citer, au fond, parce qu'il dit avec beaucoup plus de concision et de beauté d'expression que moi, ce constat, c'est-à-dire que la nature, c'est une invention tardive, c'est une abstraction philosophique, qui a toutes sortes de conséquences, positives mais aussi négatives, qui a accompagné le développement de l'Europe et de la modernité au cours des derniers siècles, mais dont on s'aperçoit maintenant qu'elle est un peu pesante, cette réalité, parce que elle nous rappelle sans cesse que nous sommes face à elle comme des maîtres et des possesseurs, un peu en surplomb, en tout cas extérieurs à elle.
Oui.
Et que
c'est à ce titre qu'elle n'existe pas, justement.
C'est à ce titre qu'elle n'existe pas, parce qu'encore
c'est
une fois...
C'est cet écart que nous avons créé dans nos sociétés modernes.
Mais même pour les scientifiques, si vous êtes éthologue, vous intéressez pas à la nature, c'est le nom d'une revue scientifique, Nature. Mais ouais. c'est pas une totalité. Vous intéressez à des interactions entre des organismes dans des écosystèmes dont vous mesurez les paramètres, etc. Si vous intéressez à tel ou tel type de bactéries, si vous intéressez au microbiome, etc. Vous intéressez pas à la nature. Même si vous intéressez à la cosmologie, au fond, vous intéressez pas véritablement à la nature. Vous intéressez à des phénomènes physiques qui est très ancien et dont on peut encore mesurer maintenant la trace, etc. La nature là-dedans n'existe pas, c'est simplement une abstraction philosophique.
Ouais, mais cette simple phrase, la nature n'existe pas, elle nous heurte au plus profond de nous-mêmes, parce que nos cultures, justement, ont fabriqué cette opposition que vous avez si bien décrite, hein, entre notre culture et le monde qui serait supposément extérieur à nous, celui de la nature. Et c'est tellement ancré en nous qu'on a du mal à concevoir cette phrase en elle-même.
Oui, il y a un travail à faire sur nous-mêmes de se déprendre, au fond, de cette abstraction pour peut-être mieux aimer des natures particulières, c'est-à-dire des milieux de vie qui nous sont familiers ou qui nous sont quelquefois très étrangers, mais avec lesquels on sent qu'on peut établir des connivences, des affinités. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important, plutôt que d'avoir une attitude générale vis-à-vis d'une nature générale.
Oui.
Dans l'un et l'autre cas, ça n'a guère de sens.
Mais est-ce que quand même, finalement, avec la crise de la biodiversité, avec tout ce qui se passe aujourd'hui autour du climat, il n'y a pas quand même quelque chose qui est en train de bouger dans les esprits, où on commence à bien comprendre que nous appartenons aussi à ce monde dont on a voulu finalement se séparer, mais nous sommes aussi un élément du vivant.
Alors c'est un paradoxe de ce que j'ai appelé le naturalisme, c'est-à-dire cette façon de percevoir les continuités, les discontinuités entre humains et non-humains qui se met en place grosso modo à tout le moins dans les textes au XVIIe siècle, et qui est un modèle, au fond, qui contraste avec d'autres façons d'être au monde, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et dans ce modèle naturaliste, il y a une sorte de contradiction initiale, puisqu'il est fondé d'une part sur l'idée que les humains ont une subjectivité, une intériorité, un esprit, une capacité d'expression langagière, de communiquer par symbole, etc., qui est tout à fait singulière, mais en même temps, ils sont le soumis aussi aux lois de la nature. Mm-hmm. Mais ils sont soumis à des lois, ils ne sont pas intégrés à un ensemble, c'est ça la différence. Ils sont soumis aux mêmes lois physiques, biologiques, chimiques que les autres organismes, comme disaient Bouvard et Pécuchet, nous sommes gouvernés par les mêmes lois que les allumettes, parce que nous avons du phosphore, etc. Donc, ça ne veut pas dire intégrés dans un ensemble beaucoup plus large qui nous dépasse et qui en même temps est à l'intérieur de nous. J'évoquais tout à l'heure le microbiome. Et donc, nous sommes un élément à l'intérieur d'une chaîne de relations. Et c'est cette extériorité de la nature qui, en même temps, est en partie composante de nous-mêmes, fait l'impasse, ou en tout cas, longtemps fait l'impasse sur cet aspect, qui est en train, petit à petit, de reprendre une certaine vigueur.
C'est vrai. Mais c'est ce que disait Darwin, d'ailleurs, pourtant, quand il décrivait le vivant. Nous ne sommes qu'une espèce parmi tant d'autres. C'est le premier, d'ailleurs, qui a bousculé nos certitudes, au fond, quand même, dans ce monde moderne, dans nos sociétés modernes.
Le grand drame, c'est que les darwiniens n'ont pas toujours été à la hauteur de Darwin, qui est un auteur extraordinaire. Dont les écrits sont d'ailleurs au départ fondés sur des observations extrêmement fines de naturalistes de terrain dans le sud de l'Amérique du Sud, aux îles Galapagos, etc., ont abouti à une théorie qui est quelquefois simplifiée à l'extrême, disons.
Est-ce que finalement notre rapport à l'écologie n'est pas en train de changer précisément parce que notre vision de la nature est en train de bouger aussi, notre vision intellectuelle de la nature ?
Alors ça dépend ce que vous entendez de notre rapport à l'écologie. C'est l'écologie politique ou l'écologie scientifique ?
Écologie politique.
L'écologie politique. Alors elle est en train de changer pour une part de plus en plus croissante de nos contemporains, en particulier parmi les jeunes. Et ça, c'est la chose qui me paraît la plus importante. J'ai entendu tout à l'heure les messages qui vous sont adressés d'auditeurs et de jeunes auditeurs. Et ça, c'est pour quelqu'un de ma génération qui désespérait au fond de voir les réactions, des frémissements dans l'opinion publique, puisque ça fait plus de 40 ans que je m'intéresse à ces questions, c'est un motif de satisfaction très grand.
Mais c'est incroyable, parce que votre travail donc, qui a démarré dans les années 70, auprès donc, de ces Indiens Achuar en Équateur, donc ces Indiens d'Amazonie, il a un écho tout à fait particulier aujourd'hui, mais depuis quelques années seulement. C'est-à-dire que vraiment, il y a une modernité incroyable à vos propos, à votre expérience, et qu'on retrouve également d'ailleurs dans ce livre, Les formes du visible à qui paraît au seuil, qui rencontre un succès quasiment inattendu, parce que c'est un livre dense, où votre pensée est là très présente, mais on sent que finalement les lecteurs ont besoin aussi de cette nourriture-là aujourd'hui pour construire leur relation à l'époque que nous vivons, tout simplement.
C'est ce que les lecteurs que je rencontre depuis à peu près 3 semaines que le livre est paru, très régulièrement, me disent. Et en effet, j'ai fait un pas de côté par rapport à des travaux antérieurs où j'ai essayé de montrer dans ce livre qu'est-ce que c'est qu'un monde tel qu'il est représenté dans des images, tel qu'il est figuré. On parle beaucoup, me suis beaucoup intéressé à des mondes, à la façon dont on composait des mondes dans différentes régions du monde, mais je l'ai fait auparavant à partir de textes, à partir de discours, à partir de mythes, à partir de récits, de chasses, à partir de formules rituelles, etc. Et j'ai voulu faire l'expérience de voir comment ces mondes étaient composés dans les images.
Et qu'est-ce que vous entendez par image ? Parce que, le disais tout à l'heure, ce sont aussi bien des masques que des gravures, que des peintures.
C'est toute forme de figuration qui rend visible quelque chose qui ne l'est pas ordinairement. Donc ça peut être un corps orné, revêtu ou non d'un masque, mais qui passe pour autre chose que ce qu'il est, par exemple incarnant un esprit. Ça peut être une peinture d'écorce en Australie qui représente un totem. Ça peut être, bien évidemment, une peinture de notre tradition de la peinture occidentale. Mmh. Ça peut être, j'en donne un exemple, ce qu'on appelle une messa rituelle dans les Andes, c'est-à-dire une pièce de tissu sur laquelle sont disposés un très grand nombre d'objets et qui sert à figurer un trajet, par exemple. Donc c'est très ample comme définition.
Et toutes ces images disent quelque chose de nos représentations du monde, des mondes.
Toutes ces images, par des procédures visuelles que j'essaye de mettre en évidence, disent quelque chose parce qu'elles montrent ou parce qu'elles omettent de montrer, ce qui est aussi très important, de la façon dont un collectif se représente les rapports de continuité, de discontinuité entre humains et non-humains. Et ça, je pense que elles le font avec peut-être plus de vigueur et de force expressive que beaucoup de discours.
Et toutes ces images, Philippe Descola, elles ont une continuité dans le temps? Elles couvrent quelle période? Est-ce qu'il y a des évolutions qui sont montrées? Ou est-ce que vous avez pris sur une période donnée assez courte, finalement?
Alors, j'ai pris ce que je pouvais prendre en fonction des données historiques, justement, c'est-à-dire en fonction de ce que l'on savait déjà sur ces images. Or, par exemple, les images du monde animiste, qui est celui que j'ai découvert en Amazonie, mais qui existe aussi en Sibérie ou dans le nord de l'Amérique du Nord, ces images, elles ont sont probablement anciennes, mais il est difficile de reconstituer leur trajectoire historique. Et donc, on est condamné dans ces cas-là à prendre des images contemporaines, contemporaines qui ont un siècle peut-être, mais sur lesquelles on sait quelque chose déjà. Parce que autrement, prendre des images sur lesquelles on ne sait rien, notamment les images de l'art pariétal, les images préhistoriques, c'est se condamner au fond aux spéculations, parce qu'on ne sait absolument pas dans quel contexte les images des grottes ornées étaient faites, pour quel usage, dans quelles circonstances, probablement rituelles, mais on ne sait pas. Donc je n'ai pris que les images sur lesquelles je pouvais avoir des informations fiables.
Et c'est l'objet de ce livre, Les formes du visible. Philippe Descola, l'invité de la Terre au carré cet après-midi.
De la douceur de tes mots, j'ai gardé juste le meilleur. Pour mes erreurs, les jours de trop, je n'ai jamais été à l'heure. Si les messages et les rancœurs restent ancrés dans mes os, parfois je pleure en décalage, j'aime l'amour vertigo. Je suis passée par le banc.
C'était Alexia Grédy sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Partout, dans la façon dont nous parlons de notre environnement, et le terme même d'environnement d'ailleurs, au fond, est une façon différente de parler de la nature, parce que qu'est-ce que c'est qu'un environnement? C'est ce qui environne un humain. Et ça, c'est des choses qui nous paraissent universelles. Et en réalité, ce que l'anthropologie montre, c'est qu'elles n'ont rien d'universel, qu'elles sont au contraire tout à fait singulières.
Voilà votre voix à nouveau, Philippe Descola, dans ce film Composer les mondes d'Elisa Lévy. D'ailleurs, on peut signaler au public que vous serez tout à l'heure à 19h au Centre Pompidou pour une projection et une rencontre avec la réalisatrice. Et puis, au courant du mois d'octobre, il y aura Terre et Lettres, par exemple, à La Rochelle. Hein, c'est un festival autour, là aussi, de cet ouvrage, de ce film, pardon. Un mot encore sur les formes du visible paru au Seuil, on le disait tout à l'heure. Quel est votre lien, vous, personnel, avec les images pour justement faire ce livre basé précisément sur ces représentations-là?
Oh, j'ai un goût très ancien pour les images.
Vous êtes dessinateur vous-même?
Oui, je dessine. J'ai appris à dessiner enfant. D'abord parce que ma mère était une bonne aquarelliste et qu'ensuite mes parents m'avaient envoyé aux arts décoratifs pour les enfants où j'ai appris à dessiner et à manier un peu la gouache, mais surtout le dessin. Et le dessin pour un anthropologue c'est merveilleux parce que ça permet de capter une situation, une attitude, un détail même de architectural comme ça, une rapidité extrême, ce que ne me permet pas toujours la photo.
Ouais, vous en avez fait beaucoup des dessins quand vous étiez auprès des hachoirs.
Mes carnets de terrain sont parsemés de dessins.
Un exemple parmi tant d'autres, hein, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup dans ce livre qui fait plus de 700 pages. Entre le dossier d'une chaise alsacienne et la bordure ornementale d'une planche à écraser les arachides au Suriname, Philippe Descola, qu'est-ce qu'on peut établir comme pont finalement entre ces différentes cultures?
Mais rien du tout, justement. Rien du tout. Et c'est, si je les ai montrés côte à côte, c'est pour se méfier
des apparences,
c'est-à-dire des analogies formelles, le goût de l'entrelac qu'on trouve dans de très nombreuses civilisations peut parfois aboutir à des schémas formels qui sont très proches. Et ces dossiers de chaises qu'on appelle le Bretzelstuhl, si mes souvenirs sont bons,
en Alsace,
ressemblent tout à fait à ces ornementations saramaca dont on pourrait éventuellement dire oui, peut-être qu'un saramaca a vu une chaise de ce type-là chez un planteur alsacien. Les saramaca, ce sont des noirs marrons, c'est-à-dire qui ont quitté les plantations et qui se sont réfugiés dans des communautés autonomes, au Suriname en particulier, et en Guyane britannique. Mais je pense plus probable que c'est des inventions autonomes et des hasards, des circonstances. Et donc, c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, je m'intéresse aux images pour lesquelles j'ai de la documentation. Je sais ce que les gens voulaient faire lorsqu'ils faisaient ces images, dans quelles circonstances ils les utilisaient. Et en partie, comment il les déchiffrait.
Mais ces images-là, elles rentrent dans quel mode d'identification? Alors, par exemple, cet exemple très précis.
Je pense que c'est de l'ornementation. Ouais. Alors, ça me conduirait. Je ne veux pas pirater votre émission parce que je pourrais en parler pendant très longtemps. Ça rentrerait dans le domaine de l'ornementation, qui est très compliqué parce que l'ornementation peut être soit purement décoratif comme celui-là, soit, alors je pense en particulier à l'Amazonie, lorsque on se met sur le corps des motifs décoratifs qui en eux-mêmes n'ont pas de signification, ces motifs décoratifs ont néanmoins, du fait qu'ils sont sur le corps, une signification parce qu'ils imitent par exemple la façon dont un esprit animal va lui-même s'orner le corps, qui est un corps qu'il voit comme humain, de façon à se distinguer d'autres espèces animales. Donc, je pourrais longuement développer tous ces parallèles, mais c'est l'une des choses que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est justement montrer que les catégories générales qu'on emploie, les masques, les sculptures, l'art décoratif, etc., sont des catégories qui sont purement descriptives, qui sont utiles pour classer des objets dans des musées, mais qui en réalité ne reflètent pas ce que les images montrent et la façon dont elles exercent aussi une puissance d'agir, c'est-à-dire la façon dont elles nous touchent, dont elles nous émeuvent, dont on peut les employer dans les rituels comme des agents de la vie sociale.
Et donc l'anthropologue que vous êtes pourrait aujourd'hui, par exemple, sur les contemporains qui ont beaucoup de tatouages, y compris dans nos sociétés européennes et occidentales, pourraient s'intéresser par exemple à cette forme de figuration, le tatouage.
Ah ben le tatouage c'est un objet pas anthropologique.
Pas l'amazonien, hein, je vous parle
non,
de
non, le tatouage c'est un objet anthropologique tout à fait légitime sur lequel on a beaucoup travaillé d'ailleurs, mais le tatouage c'est un médium, c'est pas il est illusoire de penser que le tatouage d'une jeune fille des beaux quartiers
qui s'est fait une petite colombe
qui s'est fait une petite colombe sur la main sera identique à celui d'un punk allemand, sera identique à celui qu'un hachoir peut se faire sur le visage, etc. C'est un médium. Ouais. De la même façon que la peinture, c'est-à-dire l'usage de pigments pour dépeindre quelque chose en deux dimensions, c'est un médium. Et ça ne donne pas une unité à tout ce qui est produit par ce médium.
Philippe Descola, au fond, ce livre, il fait le lien, justement, avec ses années auprès des Indiens Hachoirs, dans ce qu'il raconte de ces modes de représentation que vous avez définis. Il y en a quatre, hein, en principe. On peut le rappeler, l'animisme, le totémisme, l'analogisme et le naturalisme. Ces images, elles servent aussi à ça?
Bah, ces images, je ne sais pas si elles servent à ça en ce sens-là, mais ce que j'ai voulu faire, c'est voir si, comme je le disais tout à l'heure, au-delà de ce que l'on pouvait dire de ces modes de construction du monde, si on peut dire, tels qu'on les perçoit à travers le discours, on pouvait en dire quelque chose à travers les images. Mmh. Et donc, il y a effectivement des catégories ou des processus visuels, comme je l'ai dit tout à l'heure, des mécanismes qui rendent visibles certaines choses qui sont spécifiques à chacun de ces régimes figuratifs. Oui.
Ça s'appelle donc « Les formes du visible », ça paraît au Seuil. Et puis dans un instant, on parlera également avec vous de « Composer les mondes », donc ce film qui sort également. Et ce sera l'occasion d'aller avec vous sur le terrain à Notre-Dame-des-Landes. Philippe Descola, les questions pour vous sur franceinter.fr.
France Inter. La Terre au carré.
Et à 14h30, Camille passe au vert.
Et avez-vous déjà vu dans la rue, sur l'autoroute, ces camionnettes, ces bus ou ces camions qui affichent fièrement « Je roule au gaz naturel ». Une grande enseigne, par exemple, de supermarché en particulier, hein, qui vante d'ailleurs cet usage dans une vidéo.
Pour réduire l'impact environnemental du transport de nos marchandises, nous avons augmenté le nombre de camions de livraison roulant au GNV, gaz naturel pour véhicules. Le gaz n'émet aucune particule et très peu de polluants locaux. La motorisation GNV est la plus pertinente, c'est la plus innovante et vertueuse pour réussir la transition énergétique et écologique dans les transports.
Et je vous le disais, il n'y a pas que cette enseigne, hein, plusieurs transporteurs poids lourds, des bus aussi en ville, des cars, des camions poubelles, bref, le gaz naturel a le vent en poupe comme alternative au gazole, hein, le diesel. Et les derniers chiffres le confirment, plus 23% de véhicules roulant au GNV en 2020. On est passé précisément de 3668 véhicules à 4513. Et le président lui-même l'a mis dans sa stratégie de décarbonation des transports. Écoutez Emmanuel Macron en 2018.
Il s'agit aussi de nous engager résolument dans une révolution des transports, en généralisant les véhicules électriques et à hydrogène et en convertissant les flottes de poids lourds au gaz.
Le gaz serait donc vertueux. D'ailleurs, dans la rue, ils en disent quoi, tiens, les gens?
Bah, je pense que c'est plus propre, oui.
Le pétrole, c'est pas terrible, hein. Donc j'imagine que le gaz, c'est mieux.
Le gaz naturel, oui, c'est plus propre.
Ça doit être moins pire, je pense. Enfin, j'espère en tout cas.
D'autant que ce monsieur-là qui espère roule au volant d'un de ses véhicules.
C'est mon premier pain hier. Nous, bah, notre échelle mérite pareil. Nous ont tous changé nos camions. Avant, c'était diesel, etc. Et là, on a touché des nouveaux camions, c'est au gaz. Enfin, je trouve ça bien.
Alors, sauf qu'il y en a d'autres qui ne pensent pas ça du tout.
Bah non, le gaz pollue autant que l'essence. C'est la même merde en fait, c'est pareil.
Comme ils disent naturel, ça fait qu'on pense que c'est naturel, mais c'est pas bon pour la nature.
Quand vous voyez gaz naturel, qu'est-ce que ça vous inspire?
Moi, ça m'a pas l'air tellement différent du pétrole. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire gaz naturel? C'est un machin fossile comme le pétrole.
Eh oui, elle a raison la dame. Hein. Les discours ou le marketing ont l'air parfois de vouloir nous faire oublier que le gaz est une énergie fossile, hein, au même titre que le pétrole et le charbon, et contribue donc au réchauffement climatique. Mais les fabricants l'affirment, ils seraient à terme moins émetteurs de gaz à effet de serre pour le volet climat et seraient en plus pour le volet pollution de l'air bénéfique avec 90% de NO2, le dioxyde d'azote, de moins que le diesel. Sauf que la Fédération Transport et Environnement, qui regroupe une cinquantaine d'ONG européennes, vient nuancer tout cela dans une étude parue ce matin. Diane Strauss en est la directrice en France.
Il y a une vraie volonté de l'industrie du gaz de présenter ce gaz qui est fossile comme un gaz vertueux pour le climat. Le gaz est une fausse alternative pour le climat.
Voilà, une fausse alternative. Pourquoi ? D'abord, affirme Transport et Environnement, parce que le gaz naturel émet du méthane. C'est un gaz à effet de serre qui reste moins longtemps dans l'atmosphère que le CO2, mais qui est beaucoup plus puissant. Résultat donc ?
Sur 20 ans, à cause de ce potentiel plus fort du gaz méthane sur le climat, on a une augmentation des émissions de gaz à effet de serre de 13%. Et sur 100 ans, une petite réduction de 7,5%.
Donc augmentation, aggravation à court, moyen terme et baisse légère à long terme. Donc ça, c'était pour le volet climat. Mais ce qui inquiète le plus les ONG, c'est le volet pollution de l'air. Parce que les tests qui ont été faits à l'université technique autrichienne de Graz sur un camion à gaz de la marque Iveco, ce sont les plus vendus en Europe. Donc les tests montrent que ce camion émet 37 fois plus de particules ultra fines qu'un diesel.
On a pu compter les particules ultra fines inférieures à 23 nanomètres. Et on a pu voir qu'en effet, il y avait énormément plus de particules ultra fines pour les camions à gaz que pour les diesels. Attention, ici, je ne défends pas l'essence et le diesel, mais en comparaison, le gaz émet vraiment énormément de ces particules ultra fines très toxiques pour le corps humain.
Et cela aussi bien en conduite à la campagne qu'en ville. Alors, je précise quand même que l'étude ne porte que sur le modèle de camion S-Way d'Iveco. Mmh. Ça n'a pas été fait sur des camionnettes, sur d'autres poids lourds ou sur des bus. Mais Transport et Environnement veut lancer ce signal. Fédération très connue au passage aussi pour vanter les mérites de l'électrique. Mais Diane Strauss se dédouane sur ce dossier-là en tout cas.
En effet, l'électricité, ça fait partie de la solution. On ne pourra pas remplacer un camion thermique par un camion électrique. Il va bien sûr falloir penser plus loin en termes de report modal, en termes de réduction de la demande. Et ça, c'est un projet global de société.
D'ici là, la Fédération demande l'arrêt des subventions pour les camions au gaz, aussi bien en France qu'en Europe, et à stopper aussi l'installation de stations de distribution de gaz naturel. Il y en avait 136 à titre d'exemple en France à la fin 2020, et une centaine de plus devraient ouvrir cette année en 2021.
Et c'est Camille Passauvert à réécouter, bien sûr, sur la page de la Sphère au Carré.
La Sphère au Carré. Philippe Descola, le gaz naturel, on entend les gens dire naturel, ça fait naturel.
Donc c'est le mot magique. Hein. Voilà. Oui, c'est le mot magique. Oui, l'une de vos interlocutrice l'a bien dit, à partir du moment où on rajoute naturel, on pense pouvoir faire passer les choses. Donc la politique générale du verdissement est intéressante parce qu'elle est devenue très manifeste depuis quelques années et elle est un symptôme d'un malaise général, y compris des plus gros producteurs de gaz à effet de serre. Donc c'est une prise de conscience. Alors évidemment, c'est une façon aussi de déguiser, de retarder, etc. Mais en même temps, c'est un symptôme de quelque chose se passe. On ne sait plus circuler, il n'y a rien à voir.
Et les gens ne sont pas dupes toujours, donc c'est plutôt réjouissant. Sont...
Absolument.
Ça, comme on l'a entendu.
Philippe Descola, vous êtes notre invité cet après-midi.
Pierre Sfaccini et Ben Harper avec All Aboard.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Grâce quelque part au projet très ancien d'aéroport, c'est devenu le morceau de bocage le mieux préservé. Et donc, ce qui a été conservé là avait été détruit définitivement partout ailleurs. Là, ça fait 2 ans bientôt que le projet d'aéroport est abandonné. Et nous, naturalistes, on a vraiment senti qu'il y avait tout un combat à mener pour pas que ça redevienne de l'agriculture ordinaire, intensive, industrialisée, avec les prairies drainées, des amendements très lourds qui transforment le sol, des engrais. Parce que les prairies pauvres, entre autres, elles sont transformées à jamais. Les terrains humides, s'ils sont drainés, ils sont plus humides, etc. Donc pour garder tout ça, c'est encore tout un processus. C'est une zone où il y a plein de choses de conserver, donc on peut vraiment faire l'expérimentation de l'agriculture la plus en phase avec les éléments naturels du lieu. Et ça, on a besoin de ce terrain-là pour ça, parce qu'on pourrait faire nulle part ailleurs ce genre d'expérience.
La voix d'un naturaliste dans ce film d'Elisa Lévy, composé Les mondes qui vous suivent, Philippe Descola, et on l'entendait depuis la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, avec un discours qui, là encore, fait vraiment écho à votre pensée, hein.
Oh, je ne sais pas si c'est un écho, mais en tout cas, les occupants de la ZAD ont fait cette chose extraordinaire après être arrivés dans cet endroit pour aider des paysans qui ne voulaient pas être expulsés dans le cadre du grand projet d'aéroport. Et les avoir accompagnés, au fond, dans la résistance contre ce projet, ont décidé, ces occupants, de faire revivre ce bocage autrement que dans la grande logique de l'agriculture industrielle et productiviste, c'est-à-dire, et c'est extraordinaire, c'est une parenthèse, parce que beaucoup d'entre eux sont des urbains, ils ont une tradition, disons, de squat politique urbain, etc. Et donc, le contact avec les milieux humides du bocage au nord de Nantes est quelque chose de très nouveau. Ils se sont identifiés très profondément à ce milieu, avec l'aide de naturalistes comme celui que l'on vient d'entendre, qui ont fait des inventaires de ces milieux humides. Et ils ont souhaité défendre non seulement une nouvelle façon d'utiliser, parce que au fond les humains ont anthropisé la planète depuis des centaines de milliers d'années, mais donc d'utiliser les non-humains, mais de les utiliser de façon raisonnable, disons.
Pourquoi justement la réalisatrice vous a emmené sur le terrain de Notre-Dame-des-Landes? C'est quoi le parallèle qu'on peut faire, par exemple, avec encore les hachoirs d'Amazonie? Alors, s'il y en a un à faire, hein.
Eh bien, j'étais intéressé par la ZAD de Notre-Dame-des-Landes depuis longtemps, notamment parce que Sandro Pignocchi avait attiré mon attention sur cette expérience très originale. Sandro Pignocchi, c'est un jeune dessinateur de BD qui avait été chez les Hachoirs et qui, progressivement, a publié plusieurs BD où il imagine, au fond, un monde qui est devenu animiste. Et peut-être à cause, au départ, de la prise de conscience de l'importance de ce qu'était la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc, j'ai été dans cet endroit, ayant déjà beaucoup lu et entendu parler de cette expérience. Et ce qui m'intéressait précisément, c'était non seulement un projet politique qui était complètement différent de tout ce que l'on pouvait connaître par la création d'une commune dans laquelle on mettait tout en commun et où on essayait d'échapper, comme je l'ai dit, au consumérisme, au productivisme, etc. Donc à tous les maux, en somme, que le capitalisme industriel nous a versés sur la tête et qu'on découvre, hein, lorsque l'on revient du terrain, précisément. Lorsque, après avoir passé plusieurs années avec une population de la haute Amazonie, on revient chez soi, on est effaré par ce que l'on découvre. On le savait un peu avant, mais on le savait de façon abstraite, parce qu'on avait lu Marx, parce qu'on avait lu Gorz, parce qu'on avait lu des auteurs sur ce sujet-là. Mais là, on est effaré. Et en particulier par le fait que les rapports entre les humains, entre les hommes, se définissent essentiellement comme des rapports médiatisés par des marchandises. Et ça, c'était quelque chose d'insupportable. Et le fait que des expériences comme celle de Notre-Dame-des-Landes existent m'a paru extraordinaire. J'ai voulu aller y voir de près.
Jean-Luc, sur l'application France Inter, vous demande, Philippe Descola, si vous faites une différence entre les citadins et les ruraux.
Ce qui est intéressant, justement, à Notre-Dame-des-Landes, c'est que des citadins se sont devenus ruraux. Ce sont des catégories qui sont de plus en plus poreuses. Alors, pour revenir à Notre-Dame-des-Landes, encore une fois, beaucoup d'entre eux, et ceux qui paraissent notamment dans le film, ce sont des citadins, mais qui sont devenus cultivateurs de sarrasins, éleveurs de vaches et de brebis, etc.
Et plus globalement que Notre-Dame-des-Landes, par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure, cette séparation de « il y a nous et il y a la nature de l'autre côté », est-ce que finalement c'est une séparation que font plus les gens qui vivent en ville, et cela depuis des années, des décennies, même peut-être des siècles, enfin au moins un siècle, que ceux qui sont restés à la campagne?
Alors ça dépend qui est resté à la campagne, parce que le développement de l'agro-industrie a zoné la campagne, si on peut dire, c'est-à-dire a développé l'idée qu'il y a des endroits où on habite et il y a des endroits où on produit. En quelque sorte, l'espace agricole est devenu comme une sorte de gigantesque usine que l'on va traiter, mettre en valeur, etc. Puis on habite ailleurs. Le pari des gens de Notre-Dame-des-Landes, comme de celui d'une grande partie de la paysannerie française, et en partie d'une région que je connais bien, qui est le sud-ouest de la France, de la petite production paysanne, comme on l'appelait jadis, c'est bien que tout est mélangé. On vit dans sa ferme et on cultive par un mélange de culture, d'élevage, de production de vin éventuellement, etc. Cette intégration, en somme, a volé en éclats avec le développement de la grande agriculture industrielle. Et ce que font les occupants d'une ZAD comme Notre-Dame-des-Landes, c'est de retrouver un mode de vie paysan que moi j'ai connu dans mon enfance, mais qui a en grande partie disparu à présent. Et puis, pour revenir à votre question de départ, il y a aussi des ZAD urbaines qui sont très intéressantes. Je pense à la ZAD des Lentillères à Dijon, qui est une ancienne zone de maraîchage, où coexistent des gens qui sont venus. Elle devait être convertie en un éco-quartier. Mmh. Éco-quartier. Mmh. Hein, c'est-à-dire bétonné avec
du verre dessus.
Ouais. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont installés dans des petites clairières. C'est devenu une friche, mais en partie cultivée, avec des jardins individuels et collectifs. Ça accueille des migrants qui sont dans un foyer voisin. Donc c'est le tissu social, dans le cas présent, est assez différent de celui de Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est à 10 minutes du centre-ville de Dijon. Donc on ne peut pas répondre généralement à la question que vous posez.
Mais Philippe Descola, toutes ces luttes, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses hein, sur le territoire français et même ailleurs, qu'est-ce qu'elles disent finalement de la société aujourd'hui? Vous faites le pari, en tout cas vous aimeriez une révolution mentale hein, pour que les choses avancent vraiment sur le terrain de l'écologie justement. Est-ce que ça, ce n'est pas l'illustration concrète quand même hein?
C'en est tout à fait une illustration, oui, c'est bien pour ça que j'attache beaucoup d'importance à ce qui se passe dans les ZAD. C'est un lieu de mobilisation qui a un caractère d'exemplarité pour beaucoup d'entre nous. Alors on peut dire, oui, c'est facile, au fond, vous défausser sur des gens qui font l'exemple pour vous,
ouais.
Tout en continuant à vivre.
À vivre dans votre maison confortablement installée.
Confortablement. Mais je pense que par capillarité, puisque beaucoup de ces lieux sont en réseau, et pas simplement en France, mais aussi en Europe et dans le monde, une certaine façon alternative de vivre le rapport avec les non-humains va devenir moins bizarre. Et c'est au contraire la grande agriculture industrielle qui va devenir quelque chose d'étonnant, de bizarre, en dépit de tout ce qu'on peut entendre de la part des dirigeants de la FNSEA ou bien des marchands des semenciers, des marchands de machines agricoles qui nous disent « sans grande agriculture industrielle, on ne pourra pas nourrir la planète ». Je pense que c'est faux. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser.
Sur Instagram, on pose cette question aux gens qui suivent la page de la Terre au Carré. Comment faire évoluer notre relation avec les non-humains? On a pas mal de réponses. Pauline, par exemple, qui nous répond, il faut apprendre à mieux connaître les non-humains. Est-ce que c'est ça la clé pour vous?
C'est fondamental. C'est fondamental et je soutiens des initiatives qui se développent un peu partout pour favoriser cet enseignement, puisqu'il ne se fait pas à l'école, il ne se fait plus à l'école. Il s'est fait à l'école à une certaine époque, dans les écoles du type de celle du Grand Maulne. Mais maintenant...
Mais il y a encore des classes en forêt qui se font justement.
Oui, il y a quelques... Alors ça dépend beaucoup aussi des initiatives. Ça dépend aussi beaucoup des initiatives des enseignants. Ça dépend du tissu social qu'il y a autour. Ça dépend de la pression des parents.
Il y a une déconnexion quand même qui se fait.
Mais il y a quand même une importante déconnexion qui n'est pas assez... conduite vers une reconnexion, si je puis dire.
Mais du coup, c'est sur le terrain que ça se fait ou c'est en...
Mais c'est aussi sur le terrain, bien sûr. C'est apprendre rien que la succession des fleurs sauvages au fil des saisons, la succession des oiseaux migrateurs qui viennent nicher. Et Dieu sait que dans beaucoup de régions de France, c'est pas très compliqué à observer. Les cycles végétaux, enfin apprendre ce que c'est qu'un écosystème, tout simplement, de façon simple, hein, c'est-à-dire quels sont les effets de rétroaction.
On en parlait dans l'émission, il y a même des enfants ou des adolescents qui n'ont jamais mis les pieds nus dans l'herbe, par exemple. C'est quand même un rapport direct aussi à notre environnement et au monde des non-vivants aussi, ça, non?
Ça me
non-humains.
Des non-humains, pardon.
Parce que les non-vivants...
ça m'émeut beaucoup parce que c'est pathétique de n'avoir jamais mis les pieds nus dans l'herbe.
Et vous, Philippe Descola, ça veut dire dans votre quotidien, dans vos interactions, dans vos relations, jamais vous n'employez le mot nature, finalement?
J'essaye de m'en passer, mais c'est très difficile. Ouais. Parce que c'est la clé de voûte, vraiment au sens architectural de la métaphysique occidentale. Et donc, si vous l'enlevez, tous les systèmes d'opposition à partir de laquelle cette clé de voûte donne du sens au monde, nature et art, nature et
c'est
histoire...
C'est un mot occidental, c'est un mot qu'on n'utilise pas dans d'autres civilisations.
Alors, on peut dire bien sûr que c'est un mot occidental parce que ça vient du latin et que ça succède à un mot grec, phusis, mais c'est pas simplement ça, c'est-à-dire que nulle part ailleurs, on ne trouve dans les langues non européennes un terme qui a un tel pouvoir d'englobement et qui puisse être utilisé, comme je le disais tout à l'heure, en opposition avec d'autres concepts de façon à leur donner un point d'appui. L'art, l'histoire, la culture, la société, etc.
Allez Philippe Descola, on se retrouve dans un instant. D'autres questions et messages pour vous sur franceinter.fr et puis également vos notes vocales sur l'application France Inter.
Je te suivais juste avant la pluie, disparue comme un coup de flingue un peu sonné. Je tombe du lit, c'est comme ça toutes les nuits depuis que t'as disparu de ma vie. Sur les toits de Paris, c'est là que je finis mes nuits. Du lundi au dimanche, mis à nu, mes jours sont des nuits blanches. Mis à nu, là dans le désert de nos amours, j'ai marché des heures, j'ai rien vu. Malgré mes prières, quelques vautours venus là par erreur face au vent. J'ai si peur depuis que t'as déserté ma vie. Je ressens la terreur, je sais plus très bien qui je suis. mouvement. Je refais surface, fin de l'hiver. Une histoire qui s'efface doucement. Je remplis l'espace quand je vois la mer. Je ne bois plus la tasse, c'est comme ça que j'oublie. C'est toi qui m'as volé ma vie. Quelquefois je m'ennuie, alors je vais danser sous la pluie.
Et mise à nu, c'était la voix de Pauline Croce sur France Inter.
France Inter, la Terre au carré.
Au moment de l'abandon, ce qu'a dit le Premier ministre quand il annonce l'abandon par Birkbal, c'est dire, voilà, un projet abandonné, ne pourront rester, enfin, tous les occupants doivent partir, ne pourront rester ici que quelques-uns d'entre eux qui voudraient avoir une forme agricole classique, viable, reconnue, etc. Nous, c'était pas possible, évidemment, c'était pas ça notre vie. Déjà, vraiment sur le plan de vivre dans un territoire, c'est pas faire que de l'agriculture. Il n'y a pas la campagne pour l'agriculture, et puis la ville ou les villages pour le reste, etc. Et en fait, finalement, ce paysage, il est vraiment à l'image de ce qui constitue ce mouvement, quoi. Le mouvement, c'était un entremêlement des naturalistes, des paysans, des gens qui habitaient ce territoire et des voisins. Et en fait, la manière dont nous, on veut entretenir, penser en fait le territoire dans le long terme, c'est en gardant vraiment cet entremêlement-là, quoi, de l'habiter, du côté biodiversité, du côté cultivé, de comment tout ça fonctionne ensemble et de manière très reliée et très proche, quoi, sans séparation entre les zones ou le moins possible, en tout cas avec une espèce de cohabitation, de voisinage entre toutes ces dimensions-là, quoi.
Voilà, c'est une discussion avec vous dans ce film d'Elisa Lévy composé Les Mondes à Notre-Dame des Landes, Philippe Descola, dont je rappelle que vous serez présent pour une projection tout à l'heure au centre Pompidou à 19h, avec également la réalisatrice, donc Notre-Dame des Landes, terrain d'expérimentation, comme bien d'autres en France et dans le monde, hein, on le disait tout à l'heure.
Tout à fait.
Ouais. Est-ce que ce rapport justement entre humain et non-humain aujourd'hui, est-ce que cette séparation, ça fait l'objet de beaucoup de discussions entre intellectuels et entre les intellectuels de la nouvelle génération?
Ah, de plus en plus. Ouais. J'avais le sentiment d'être un peu solitaire ouais. Il y a une quarantaine d'années lorsque j'ai commencé à faire un séminaire de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales. Je venais d'être élu maître de conférence qui s'appelait Anthropologie de la nature. Mes collègues me regardaient avec un peu de surprise. Qu'est-ce que c'est que cette chose bizarre qu'est l'anthropologie de la nature?
Ah, donc vous avez utilisé quand même le mot nature pour intituler un cycle.
Oui, de façon à jouer sur le contraste entre l'anthropologie qui en principe est l'étude des humains et la nature qui se passe en principe sans les humains, pour montrer précisément que les deux sont liés. Mmh. Et donc c'est un oxymoron, comme on dit, donc c'est une contradiction dans les termes. Et j'avais utilisé délibérément cette contradiction dans les termes pour donner un peu de punch à ce projet intellectuel. Et je suis très satisfait de voir que dans les jeunes générations, je parle là du monde de la recherche, ouais. C'est un thème qui maintenant est devenu extrêmement débattu, recherché. Il y a des chaires d'anthropologie de la nature, alors que je considérais en effet que c'était un mélange de termes complètement bizarres dans plusieurs endroits.
Est-ce qu'il y a quand même du scepticisme aussi? C'est-à-dire est-ce que ça débat? Est-ce qu'il y a des controverses? Est-ce qu'on s'affronte?
Bien sûr qu'il y a des controverses. La science n'existe pas sans les controverses, de toute façon, heureusement. L'une des controverses, par exemple, c'est une controverse qui peut paraître sémantique, mais qui est importante aussi. C'est à propos du terme nature, précisément. Certains me reprochent de dire que la nature n'existe pas et donc de ce fait de ralentir le combat contre la disparition, par exemple, de la nature sauvage. Mais j'assume complètement, au fond, ce choix. Qui est un choix politique, parce que continuer à parler de nature, c'est continuer à maintenir l'idée que c'est soit un système de ressources, soit quelque chose qu'il faut protéger de façon à le maintenir tel quel, pendant que l'on exploite allègrement tout ce qui autour ne mérite pas d'être protégé. Et donc ces choix sémantiques-là sont aussi des choix dans les priorités politiques.
Merci beaucoup en tout cas Philippe Descola, on était très heureux de vous accueillir ici dans la Terre au Carré. Les formes du visible, donc ça vient de paraître aux éditions du Seuil et ce livre a déjà visiblement rencontré largement son public. C'est dans la collection Les Livres du Nouveau Monde. Merci infiniment et à très bientôt j'espère.
Merci Mathieu Vidard.